Bonjour, sœur Marie-Isabelle.
Bonjour Jean-Louis.
C'est toujours une grande joie de vous accueillir sur l'antenne de Radio Maria. Aujourd'hui, pour
Merci.
votre émission, Formation de la personne, vous nous donnez les clés pour nous aider à prendre la meilleure décision. Nous vous écoutons.
Merci beaucoup, merci Jean-Louis, merci Sandrine. Et bonjour surtout, chers auditeurs et auditrices de Radio Maria. Alors, je sais que c'est Radio Maria France, mais nous avons également des auditeurs de Suisse. Et je suis particulièrement sensible parce que j'ai de la famille en Suisse aussi. Donc, je me place et je vous place sous la protection de la bienheureuse Vierge Marie, éducatrice des peuples. Et aujourd'hui, notre enseignement, qui est le cinquième enseignement de la série Formation de la personne, comme nous vous l'avons dit, a pour titre Prendre la meilleure décision. Je vais résumer pour tous mes auditeurs ce que nous avons appris jusqu'à présent dans les précédentes émissions. Nous avons d'abord, dans un premier enseignement, compris que pour être un homme juste, il ne suffit pas d'avoir des valeurs, aussi bonnes et aussi parfaites soient-elles. Encore faut-il les mettre en pratique. Mais comment? Comment mettre ces valeurs en pratique? Nous avons expliqué que nous pouvons acquérir des vertus. Et aujourd'hui, nous allons approfondir cette notion d'acquisition des vertus, en particulier dans le cadre de l'éducation des enfants et des jeunes. Dans les trois derniers enseignements de l'année 2021, nous avons parlé des vertus théologales, celles qui nous sont données directement par Dieu au moment du baptême et qui grandissent par la grâce dans la prière et par l'action de Dieu. Ces vertus théologales sont la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, nous allons commencer à aborder un nouveau volet avec les vertus morales. Les vertus morales nous permettent de bien orienter notre action et de prendre de bonnes décisions. Parmi ces vertus morales, qui sont très nombreuses, par exemple, dans les vertus morales, vous avez la gratitude, vous avez l'honnêteté, vous avez la générosité, l'humilité. Parmi ces vertus, nous allons d'abord étudier les quatre vertus cardinales qui jouent un rôle charnière dans la construction de la personne humaine. Il est très intéressant, par ailleurs, de remarquer que déjà Platon et Aristote les avaient identifiés 3 siècles avant notre ère. Donc, les anciens avaient repéré que parmi toutes les vertus humaines, il y en a quatre qui soutiennent toutes les autres vertus. Et c'est pourquoi elles sont appelées vertus cardinales, comme les charnières. Ce sont la prudence, la justice, la force et la tempérance. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la vertu de prudence. La prudence, c'est la vertu qui dispose la raison pratique à discerner en toutes circonstances notre véritable bien et à choisir les justes moyens de l'accomplir. Vous savez, il est en général assez facile de faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal. Mais que se passe-t-il lorsque l'on doit choisir entre deux choses qui sont toutes les deux bonnes? Par exemple, si on doit choisir entre décider de faire un don à une association qui accueille des SDF ou à une autre qui aide les migrants. Ou bien encore, si moi j'ai prévu de faire un voyage avec ma famille, mais j'apprends qu'un de mes amis a vraiment besoin de moi en ce moment. Donc deux choses très bonnes et il faut prendre une décision, il faut choisir entre les deux. Ces décisions sont tellement fréquentes dans notre vie que nous n'y prêtons peut-être pas toujours l'attention qui convient. Donc aujourd'hui, c'est une invitation à prendre du recul par rapport à nos décisions, comment les prendre, comment les prenons-nous et comment les prendre mieux. La littérature et le cinéma sont truffés d'exemples où l'intrigue s'appuie sur ce genre de situation, souvent poussé à l'extrême, pour amener le lecteur ou le spectateur à s'interroger sur ce qu'il choisirait de faire. Il s'agit dans tous les cas de prendre une décision qui est difficile ou délicate. Ça fait beaucoup de livres, beaucoup d'intrigues, beaucoup de films. Je vais vous donner deux exemples pour illustrer mon propos. Le premier exemple est pris dans la littérature classique, que vous avez peut-être étudié dans vos classes secondaires. C'est le Cid de Corneille. Chimène, l'héroïne, est profondément amoureuse de Rodrigue. Mais ce dernier a dû venger l'affront fait à son père en tuant le propre père de Chimène dans un duel. Comment Chimène doit-elle réagir à cette situation? Doit-elle pardonner l'offense et épargner Rodrigue? Ou bien doit-elle défendre l'honneur familial au risque de perdre celui qu'elle aime profondément? Notez que c'est un dilemme entre deux choses qui sont bonnes en soi, à savoir l'amour et le sens de l'honneur. Un autre exemple, ce deuxième exemple est pris dans un film de Hugh Hudson, Les Chariots de Feu, qui est basé sur l'histoire vraie de deux athlètes britanniques qui ont participé aux Jeux olympiques d'été à Paris en 1924. L'un des acteurs, l'un des personnages de l'histoire, qui s'appelle Harold Abraham, est de confession juive et il tente de dépasser l'antisémitisme et les préjugés sociaux afin de pouvoir affronter dans la course aux 100 mètres Eric Liddell. Et cet Eric est surnommé l'Écossais volant, tellement il est bon et rapide. Tous les deux doivent s'affronter pour les trois épreuves finales. On apprend alors que l'épreuve du 100 mètres aura lieu un dimanche. Or, Eric est de confession chrétienne. C'est un fervent protestant et sa religion lui interdit de courir le dimanche. Quelle décision doit prendre Eric? Doit-il participer à cette épreuve sportive et saisir sa chance de devenir un champion olympique? Ou bien doit-il décider de ne pas courir pour respecter le précepte du repos dominical? Pour Aristote, l'homme prudent, c'est celui qui est capable de délibérer correctement sur ce qui est bon et avantageux pour lui-même, non pas d'une manière partielle, juste sur le moment, mais pour l'ensemble de sa vie, conformément à son désir de bonheur. Donc aujourd'hui, nous allons réfléchir à comment acquérir la vertu de prudence, celle qui nous aide à discerner la volonté de Dieu dans des circonstances spécifiques et à prendre la meilleure décision. La Bible nous dit que la prudence s'acquiert de trois manières. La première, par la prière. Dans le livre de la Sagesse, au chapitre 7, au verset 7, j'ai prié et la prudence m'a été donnée. J'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Deuxième manière d'acquérir la sagesse d'après la Bible, par la docilité à l'égard des gens expérimentés, comme des parents, des maîtres, des vieillards. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 13, au verset 20, qui fait route avec les sages deviendra sage, qui fréquente les insensés tournera mal. Et enfin, troisième manière d'acquérir la prudence, grâce à l'expérience que l'on acquiert tout au long de notre vie. Alors, dans le livre de Ben Sirac, le sage, au chapitre 6 et au verset 18, Mon fils, dès ta jeunesse, accueille l'instruction et jusqu'à l'âge des cheveux blancs, tu trouveras la sagesse. Puisque cette série d'émissions se place dans le contexte de la formation des enfants et des jeunes, je voudrais approfondir aujourd'hui avec vous le processus d'acquisition des vertus en général. Tout enfant, je vous le rappelle, possède par nature des inclinations morales premières et un sens moral primitif qu'aucune corruption, même dû au péché, ne pourra entièrement détruire. Il s'agit pour l'enfant d'une sorte d'intuition. L'enfant a le sens du vrai et du bien. Il a le sens de la droiture et de l'amour. Et il a le désir de connaître et d'aimer. Donc, il possède des semences de vertu. Et ces dernières feront croître ses dispositions naturelles. Mais, nous en avons tous l'expérience, si nos enfants ont de bonnes prédispositions naturelles, l'expérience quotidienne nous montre qu'il existe une grande distance entre les bonnes intentions de nos enfants et leur réalisation. Cela est dû à leur capacité actuelle et il faut en tenir compte. Il faut du temps pour acquérir les vertus. Ils ont donc besoin d'une longue et patiente éducation sur le plan moral que l'on peut comparer à l'apprentissage dans le domaine de l'art ou du sport. L'enfant, évidemment, ne deviendra pas spontanément courageux ou persévérant. Deux vertus. Nous avons vu que les vertus s'acquièrent par la répétition d'actes bons. Le violoniste ne devient un virtuose qu'après de longues heures de pratique laborieuse, afin que ses doigts accomplissent parfaitement ce que son intelligence lui dicte. Le skieur olympique multiplie les entraînements et peut-être les chutes. De même, une vie morale vertueuse ne peut pas se dispenser d'exercice. L'habitude ainsi créée, petit à petit, permet d'agir régulièrement de manière juste, sans avoir besoin de réfléchir à chaque instant. Les vertus s'appuient donc sur de bonnes habitudes. Elles sont difficiles au début, puis deviennent de plus en plus naturelles. Mais les vertus ne sont pas que des habitudes, comme celle de bien se brosser les dents, ou de passer les vitesses pour rétrograder, ou bien de boire avec modération. Elles ne sont pas que des habitudes. Elles ne proviennent pas d'un automatisme, mais d'actions qui sont personnelles et qui mettent en cause à la fois un jugement judicieux sur le bien et le mal et, en plus, un engagement volontaire en faveur de ce qui est bon. Pour être plus précis, c'est par la répétition d'actes intérieurs de maîtrise intelligente de soi que les vertus s'acquièrent. Elles nécessitent le contrôle de ses émotions et de ses passions. Les émotions sont très utiles car les vertus s'appuient sur elles et les utilisent pour faire le bien. Par exemple, Saint Camille de Lellis a mis à profit son sens inné de la compassion envers ceux qui souffraient pour se mettre entièrement au service des malades et pour fonder des hôpitaux pour ceux qui croupissaient dans des asiles insalubres en Italie à la fin du XVIe siècle. Donc c'est bon, les passions, les émotions, elles sont bonnes, elles sont à utiliser. L'éducation aux vertus comporte une double dimension. Elle requiert l'intervention d'un éducateur, premièrement. Et ensuite, la contribution libre de la personne qui est éduquée. L'éducateur va montrer la route, va conseiller, va accompagner, va corriger et servir de modèle. Et l'éducateur doit trouver le juste équilibre entre la formation de l'intelligence et celle de la volonté. Car s'il est important que la personne éduquée comprenne ce qui est bon pour elle, ce qui relève de la raison, cela ne suffit pas. Il ne suffit pas de comprendre. La personne doit aussi faire l'effort personnel de la mise en pratique en utilisant sa volonté. Et ça, c'est tout l'algorithme difficile de l'éducation entre intelligence et volonté. Par conséquent, l'éducateur ne peut se contenter d'un dressage, vous le comprenez bien. qui serait destinée à former de bonnes habitudes. Parce que éduquer un enfant, ce n'est pas la même chose que dresser un dauphin. En effet, si l'acte extérieur exécuté par la personne en formation n'est pas soutenu par un acte intérieur personnel, alors l'habitude censée être ancrée dans sa personnalité restera superficielle et insuffisante pour soutenir l'accomplissement d'actes bons dans la durée. Ceci est vrai en particulier lorsque les circonstances vont changer et exigeront davantage d'efforts personnels. Par exemple, au moment où un adolescent va quitter la maison pour entreprendre des études supérieures. Malheureusement, nous connaissons tous des adultes qui ont rejeté l'éducation qu'ils avaient reçue petits parce que ce qu'ils avaient appris pendant leur enfance n'avait pas été suffisamment accepté ou n'avait pas été intériorisé librement. Par ailleurs, la formation en vertu requiert une certaine discipline de vie. Et souvenons-nous que le mot discipline vient de disciple. La discipline comporte une communication du savoir et la formation de l'intelligence, aussi bien que celle de la volonté. La discipline ne doit pas être perçue comme un rapport de force. La vraie discipline fait appel aux dispositions naturelles de l'enfant, à son sens spontané de ce qui est bien et de ce qui est vrai, et elle se place au service de sa croissance au moyen des règles qui lui correspondent en profondeur. Les éducateurs et d'abord les parents devront adapter leurs exigences à la personnalité de chaque enfant. Dans une même famille, il peut y avoir un enfant qui est toujours prêt à rendre service sans qu'on le lui demande. Et un autre, au contraire, qui trouve systématiquement une bonne raison, une bonne excuse pour se dérober quand on a besoin de lui. Et les parents auront parfois la responsabilité de freiner le premier, qui veut toujours aider, en l'envoyant apprendre ses tables de multiplication, par exemple, et devront exiger de l'autre enfant qu'il prenne sa part dans la vie de la famille, pour le bien commun de la famille, même si cela doit engendrer des cris et des pleurs. Ça, c'est la responsabilité des parents, de savoir qu'il faut freiner, il faut freiner un enfant et il faut pousser l'autre. Revenons maintenant à la vertu de prudence. Comme dans les émissions précédentes, je vais m'appuyer sur le parcours de formation que vous connaissez déjà maintenant, qui s'appelle « Aimer et pratiquer les vertus » des Sœurs Dominicaines de Nashville, que vous pouvez télécharger gratuitement sur Internet, « Aimer et pratiquer les vertus ». Vous trouverez la vertu de prudence dans les livrets enfants de la troisième année, l'année de la charité, à partir de la page 26, et dans le guide pour les parents à la page 47. Là, vous trouverez le détail de toutes les activités. Ce programme, ce parcours, définit la prudence pour les enfants comme l'habitude acquise de prendre la bonne décision dans chaque circonstance. Et pour mettre cela à la portée des enfants les plus jeunes, on dira que la prudence se résume à bien réfléchir avant d'agir. Voici une bonne manière d'aider un enfant de 5 à 8 ans à devenir plus prudent en lui proposant l'activité suivante. Donc je vous lis l'activité. Pour cette tranche d'âge, entraîne-toi à réfléchir à haute voix avant de prendre tes décisions. Quelles sont les différentes possibilités? Qu'est-ce qui est bon dans chaque cas? Qu'est-ce qui est mauvais dans chaque cas? Que va-t-il se passer si tu choisis celle-ci ou celle-là? Donc, cette activité ne peut se faire qu'en présence d'un adulte, un parent ou un enseignant, par exemple, car l'enfant n'a pas encore beaucoup d'expérience de ce qui peut se passer. Il a du mal à se projeter dans l'avenir. L'adulte joue donc un rôle majeur qui sera d'autant plus productif dans la formation de l'enfant que le temps de la formation, de la réflexion et le temps de l'action sont donc proches dans le temps. Donc, je vais vous donner un exemple tout simple, en particulier pour un garçon. Tu veux jouer au ballon et tu as plusieurs possibilités. Tu peux choisir d'y jouer sur le terrain en face de la maison ou sur l'espace de jeu à côté de l'école. Si tu choisis de rester en face de la maison, tu peux peut-être y jouer tout seul. Tu peux y aller tout seul et jouer tout seul. Mais le terrain est en pente et tu risques de perdre ton ballon dans le grand fossé près de la route. Maintenant, si tu choisis d'aller jouer sur le terrain de jeu, tu vas devoir attendre qu'un enfant soit prêt pour t'y accompagner. Mais là-bas, tu y seras en sécurité et tu... Une discussion, bien sûr, ça prend plus de temps. Je vous résume ça très, très brièvement. Ça prend plus de temps. Il faut faire réfléchir l'enfant, lui donner des temps de silence, des temps de réflexion. Et ensuite, l'enfant sera sans doute tenté de choisir la solution la plus facile. Et il est bon que les parents lui laissent parfois le choix de faire de mauvaises expériences. Pourquoi cela l'aidera-t-il pour l'avenir? Parce que si les parents décident toujours à la place de l'enfant, ce dernier va accumuler une certaine frustration en pensant que son idée à lui aurait été la meilleure. Mais si l'adulte laisse de temps en temps à l'enfant la possibilité de faire un choix qui n'est pas le meilleur, bien sûr seulement dans les cas où il n'y a pas de danger réel, hein, où les conséquences ne seront pas graves, eh bien, dans ce cas-là, l'enfant apprendra à assumer les conséquences de ses actions et de ses erreurs et à en tirer des leçons pour l'avenir. Donc, l'adulte doit avoir la patience de montrer les choses à l'enfant. L'enfant ne le comprendra pas forcément tout de suite et il va avoir à faire des choix qui ne seront pas toujours les meilleurs choix, mais il faudra qu'il y réfléchisse avec l'adulte au fur et à mesure. Il est important de se rappeler qu'un choix peut nous sembler bon, mais qu'il n'est vertueux que s'il se fonde sur la prudence, c'est-à-dire sur le choix le plus raisonnable compte tenu des circonstances. Donc, ce n'est pas un choix dans l'absolu, ce n'est pas un choix en dehors de toute cette situation, c'est en fonction des circonstances. Saint Thomas d'Aquin, que nous célébrons cette semaine, définit la prudence comme une vertu de l'intelligence qui, du passé et du présent, déduit l'avenir. La prudence guide ainsi notre conscience et la prudence détermine aussi le juste milieu qui est applicable aux actes de toutes les autres vertus. Parmi les nombreuses situations dans lesquelles nous avons besoin de cette vertu de prudence, voici quelques décisions qui font particulièrement appel à la prudence. Donc, dans les cas où on doit choisir entre deux biens, dans les cas où on doit connaître le bon moment ou la bonne manière de parler d'un problème à quelqu'un, dans les cas où il faut concevoir de nouvelles stratégies pour faire face à de nouvelles situations ou à de nouveaux besoins. Dans tous ces cas, dans toutes ces situations, on a besoin de la prudence. Si vous avez des enfants qui ont entre 9 et 12 ans, je vous recommande d'aller consulter les activités de la page 28 du livret des CE2-CM2. Et une de ces activités permet de faire prendre conscience aux enfants des effets ricochets ou des réactions en chaîne de leurs propres actions. Et une autre activité est très précieuse pour apprendre aux enfants à gérer les problèmes et les conflits avec d'autres enfants. Et ceci en faisant usage de la parole et sans avoir nécessairement besoin toujours de faire appel à un adulte. Pour cela, il faut leur donner des clés concrètes et des méthodes et les entraîner à les mettre en pratique. C'est ce qu'on appelle dans ce programme la communication consciente. Il s'agit de préparer l'enfant à avoir une conversation privée avec un autre enfant pour trouver une solution. Et je vous résume brièvement la méthode. Donc, c'est une démarche qui se fait en 6 étapes. La première, réfléchir à l'avance à ce que l'on va dire. La deuxième, demander à parler avec la personne, l'inviter à parler. Troisième étape, prier. Quatrième étape, expliquer ce que l'on a constaté en s'appuyant sur des faits précis. Cinquième étape, exprimer les sentiments que l'on a éprouvés. Et sixième et dernière étape, formuler une demande concrète, précise, réalisable et exprimée de manière positive. Donc, j'ai constaté moi-même que des enfants qui ont pris l'habitude de parler de leurs conflits entre eux, plutôt que de réagir par des coups ou de la violence verbale, ils sont beaucoup plus sûrs d'eux et ils sont beaucoup plus à l'aise ensuite pour affronter un environnement inconnu. Donc, je vous recommande de travailler cela avec vos enfants dans le domaine de la prudence. Pour terminer, je voudrais parler de la différence qui existe entre une prudence purement humaine, naturelle, et la prudence en tant que vertu infusée par le Saint-Esprit. Rappelons que dans le langage courant, la prudence désigne l'attitude d'esprit de celui qui prévoit, qui calcule les risques, les conséquences d'une situation ou d'une action, et pour voir anticiper ce qui pourrait être fâcheux, dangereux sur le plan moral ou matériel, et ensuite qui règle sa conduite de façon à les éviter, éviter les risques, éviter les dangers. Je dirais que notre société est de plus en plus attachée à cette prudence-là. Pensez à tous les systèmes de protection que nous avons, tous les détecteurs, les caméras de surveillance, tous ces objets qui sont censés prévenir tous les risques et tous les dangers. Donc, notre société est très sécuritaire, donc on a une prudence très sécuritaire. Mais pour nous chrétiens, notons que la prudence humaine n'est pas suffisante pour faire de nous des saints. Et notre but, c'est d'aller au ciel. Ponce Pilate a certainement fait preuve de prudence humaine en livrant Jésus alors qu'il le savait innocent. Il a choisi d'éviter une émeute de la part de la foule qui grondait autour de lui. Et il a sauvegardé l'ordre établi. Il a conservé sa position politique, il a obtenu ce qu'il voulait. Son but, c'était de rester en place, garder son pouvoir. Ça, c'est de la prudence purement humaine, la prudence de Ponce Pilate. En revanche, les saints nous offrent d'innombrables exemples qui vont dans le sens complètement opposé à la prudence humaine. Et peut-être que nous sommes tous invités aujourd'hui à réfléchir et à nous dire qu'il faut aller au-delà de la prudence humaine. Aujourd'hui même, nous célébrons la fête de la conversion de Saint Paul. Saint Paul, il a été arraché à sa prudence humaine sur le chemin de Damas. Il avait un plan bien établi pour éliminer la secte des chrétiens. Il a été terrassé dans son cheval et il a enfin compris que ses pensées et ses plans n'étaient pas ceux de Dieu, car la sagesse de Dieu est tout autre. Et Saint Paul écrira plus tard aux Corinthiens, ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Ça, c'est la prudence que nous voulons pour nous-mêmes chrétiens. Si nous prions pour demander la prudence avant de prendre une décision et au moment d'entreprendre une action, Dieu va lui-même infuser en nous sa propre sagesse et sa propre manière de voir les situations. Et nous serons sans doute étonnés de constater que les résultats vont bien au-delà de ce que nous avions imaginé. Alors, je dois m'arrêter là, hein, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. En conclusion, je dirais que la vertu de prudence est une grande vertu, bien plus riche et bien plus puissante que nous le pensons d'habitude, car c'est la vertu qui a pour mission de diriger toutes les autres vertus humaines et de nous conduire vers le ciel.
La prudence chez les tout-petits, chez les enfants en bas âge, comment elle se manifeste chez ces enfants?
Alors là, la prudence de l'enfant, je pourrais dire que elle est fondée essentiellement sur la docilité de l'enfant. Parce que l'enfant n'a pas encore l'expérience, ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir. Son existence est très très brève, donc il découvre la vie. Et je pense que le succès pour lui de la prudence réside dans la docilité. Et c'est une chose qui est assez spontanée aux enfants, faire confiance à leurs parents, à ceux qui sont autour d'eux. Et dans la mesure où ils leur font confiance et ils sont dociles et ils écoutent leurs conseils et ils suivent leurs conseils, eh bien, ils peuvent grandir en prudence petit à petit. Et je pense que plus l'enfant est encouragé par sa famille à être docile, à comprendre que la docilité, c'est le chemin pour lui d'apprendre beaucoup de choses et de faire le moins d'expériences négatives possibles, eh bien, je pense qu'il est sur le bon chemin. Alors, quand on grandit, malheureusement, on perd cette confiance spontanée dans les adultes, dans les autres. Et je pense que c'est l'orgueil qui, petit à petit, prend le dessus et qui nous empêche d'avoir cette docilité et cette confiance, malheureusement, que l'on doit retrouver par l'esprit d'enfance, comme Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parce qu'une bonne part de la prudence, elle est due à l'écoute de l'Esprit Saint. Donc, il faut tendre l'oreille vers l'Esprit Saint pour prendre les bonnes décisions et les décisions prudentes. Donc, je dirais, c'est à encourager chez l'enfant et ensuite à développer et tant qu'on peut dans sa vie spirituelle plus tard. Voilà.
Très bien, merci. Donc, pour conclure, retrouvons notre âme d'enfant pour mieux accueillir l'Esprit Saint.
Merci beaucoup.
Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Merci infiniment, Sœur Marie-Isabelle, pour votre enseignement.
Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.